écoutez toujours Radio France Internationale. Il est maintenant 20h à Paris, 18h en temps universel. Dans 10 minutes, ce sera Accent du Monde, RFI dans toute sa richesse et sa diversité pour l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères. Mais tout de suite, un journal. Et c'est avec vous, Adrien Delgrange.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition internationale, le Premier ministre israélien ignore les appels au cessez-le-feu. Les bombardements sur le Liban vont se poursuivre, a affirmé Benjamin Netanyahou devant les dirigeants du monde réunis à New York, au siège de l'ONU. Les ravages de l'ouragan Helene, au moins 17 personnes sont mortes en Géorgie et 5 en Floride. La Norvège change radicalement de politique en matière d'accueil des réfugiés. Oslo cesse d'accorder l'asile automatique à tous les réfugiés ukrainiens. Et puis enfin, elles avaient jeté de la soupe sur une œuvre d'art signée Vincent Van Gogh pour interpeller le monde sur le manque d'action en faveur du climat. Elles ont été condamnées à de la prison ferme.
On le constate une nouvelle fois, l'offensive israélienne sur le Liban ne connaît pas de répit.
Le Premier ministre libanais accuse Israël de mener, je cite, une guerre génocidaire. À la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou, que vous allez entendre dans un instant, a répété qu'il irait jusqu'au bout contre le Hezbollah. Anastasia Becchio, bonsoir.
Bonsoir.
À peine avait-il terminé de parler à New York que l'armée israélienne bombardait la banlieue sud de Beyrouth.
Oui, ce faubourg densément peuplé abrite le quartier général du Hezbollah. C'est ce quartier général qui était visé selon les forces de défense israéliennes qui assurent que le centre de commandement se trouve dans un bunker sous des immeubles d'habitation. Selon plusieurs médias israéliens, le chef du Hezbollah était la cible de la frappe. Il aurait survécu. Hassan Nasrallah va bien, assure une source proche du mouvement chiite à l'AFP. Ce bombardement massif avec des détonations sans précédent suivies d'épaisses colonnes de fumée a provoqué l'effondrement de 6 immeubles et fait d'énormes cratères selon une source proche du Hezbollah. Le journal L'Orient Le Jour évoque une situation très tendue. Il rapporte que de nombreux habitants ont rassemblé leurs affaires et marcheraient le long de la route qui mène à l'aéroport international de Beyrouth, un peu plus au sud. Les secouristes et l'armée ont établi un périmètre de sécurité. Un premier bilan provisoire livré par le ministère libanais de la Santé fait état de 2 morts et de 76 blessés. Le ministère précise que les opérations de déblaiement des décombres vont se poursuivre et qu'il faut s'attendre à ce que ce bilan augmente dans les prochaines heures.
Anastasia Becchio, Benjamin Netanyahou a écourté son voyage aux États-Unis pour rentrer en Israël. Un peu plus tôt dans la journée, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre israélien rejette tous cessez-le-feu au Liban, mais aussi à Gaza. Benjamin Netanyahou a aussi menacé l'Iran de représailles en cas d'attaque de Téhéran.
Soutenus par l'Iran, les terroristes palestiniens en Judée-Samarie ont perpétré de nombreuses attaques, là-bas et dans tout Israël. Et en avril dernier, pour la première fois, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son propre territoire, tirant sur nous 300 drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques. J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a aucun endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et c'est vrai pour tout le Moyen-Orient. Loin d'être des agneaux conduits à l'abattoir, les soldats israéliens ont riposté avec un courage incroyable et des sacrifices héroïques. Et j'ai un autre message pour cette assemblée et pour le monde en dehors de cette salle. Nous sommes en train de gagner.
We are winning.
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien à l'Assemblée générale de l'ONU cet après-midi, propos recueillis par notre envoyé spécial à New York, Julien Chavanne.
Vous le disiez en titre, la Norvège cesse avec effet immédiat d'accorder l'asile automatique à tous les Ukrainiens.
C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement scandinave, Ottilia Ferré. C'est un changement significatif dans sa politique d'accueil des réfugiés.
En effet, dès ce vendredi, plus aucun Ukrainien ne pourra bénéficier automatiquement de l'asile. Chose à laquelle tous les réfugiés avaient droit depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Les autorités norvégiennes appelaient cela la protection collective. Mais c'est désormais terminé. À présent, les demandes seront étudiées au cas par cas, mais uniquement pour les personnes arrivant de l'ouest de l'Ukraine, jugées sûres car éloignées du front. Pour expliquer ce revirement de situation, Oslo dit avoir déjà accueilli quelque 85 000 Ukrainiens, plus que ses voisins nordiques. La ministre norvégienne de la justice a expliqué ce vendredi en conférence de presse que l'impact de cet afflux de réfugiés avait eu des conséquences sur le logement, les services de santé et les établissements scolaires dans plusieurs communes. Elle a aussi ajouté, je cite, qu'une part croissante de ces réfugiés étaient des hommes dont beaucoup sont en âge de combattre alors que l'Ukraine peine à grossir les rangs de son armée pour repousser l'offensive russe. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Aux États-Unis, au moins 17 personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité à l'heure actuelle après le passage de l'ouragan Helene. De Tallahassee en Floride, à Charlotte, en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes provoquent crues soudaines et chutes d'arbres. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations avec une élévation du niveau de la mer atteignant parfois à certains endroits plus de 4,5 mètres.
En France, plusieurs ministres du gouvernement Barnier, dont Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, se sont positionnés pour une transformation de l'AME.
Oui, l'aide médicale d'État, dispositif français qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Eh bien, restreindre ou supprimer cette AME pour les sans-papiers aurait des conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques inacceptables, s'inquiètent 8 anciens ministres de la Santé dans une tribune publiée aujourd'hui dans le quotidien Le Monde. Alors, parmi les signataires, Aurélien Rousseau, Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn, Marisol Touraine ou encore l'ancien ministre de la Santé de février à septembre 2024, Frédéric Valletoux.
L'AME, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, dont on sait qu'il est utile. Il est utile d'abord pour des raisons de santé publique, parce qu'il permet de prendre en charge les personnes qui arrivent sur le territoire français, qui s'en servent dans des situations irrégulières, mais qui peuvent arriver avec des pathologies, avec des maladies et des infections, ou même développer, une fois arrivé en France, des maladies, et qu'il faut pouvoir soigner. C'est d'abord la grandeur du système français, c'est de soigner tout le monde. Et puis, de manière plus égoïste, quelqu'un qu'on ne soigne pas tout de suite, c'est quelqu'un qu'on retrouvera quelques mois plus tard à l'hôpital, aux urgences, et dans un état avancé de maladie qui sera évidemment très, très différent. Et donc, ça sera une charge de toute façon, si on raisonne sur le plan économique, plus lourde pour la société que si on prend les gens, bien sûr, le plus tôt possible. Les pays qui, je pense à l'Espagne, qui avait quelques années avait supprimé un dispositif qui était équivalent, s'en est mordu les doigts parce que la charge était évidemment avec le temps beaucoup plus forte pour les hôpitaux. Ils l'ont constaté et ils sont revenus en arrière.
Et puis cette séance de rattrapage pour composer le gouvernement français, ils sont désormais 42.
Près d'une semaine après l'annonce de l'équipe gouvernementale autour du Premier ministre Michel Barnier, deux nouveaux postes viennent d'être créés. Le ministère aux personnes en situation de handicap, représenté par la députée Horizon Charlotte Parmentier-Lecoq, et puis aux anciens combattants, la nomination du député Les Républicains Jean-Louis Thieriot.
Et puis elles avaient jeté de la soupe sur le chef-d'œuvre de Van Gogh, les tournesols à la National Gallery à Londres.
Et pour ce geste, Philippe, deux militantes écologistes du groupe Just Stop Oil ont été condamnées à des peines de prison ferme aujourd'hui par la justice britannique. Alors le célèbre tableau n'a pas été endommagé car protégé par une vitre, seul le cadre avait subi des dommages. Mais le juge londonien, Stéphanie Schuller, a voulu faire de ce procès un exemple.
Vous n'aviez tout simplement pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol, et votre arrogance à prétendre le contraire mérite la condamnation la plus ferme, a déclaré le juge londonien avant de condamner Phoebe Plummer et Anna Holland à respectivement 2 ans et 20 mois de prison ferme. Les deux jeunes femmes avaient fait valoir leur droit à la désobéissance civique et pacifique, garantie par le droit international, pour exiger la sortie des combustibles fossiles d'ici 2030. Mais au Royaume-Uni, de nouvelles lois régressives ont été adoptées. Appelle Fiona, membre du groupe Just Stop Oil.
Les lois sur le droit de manifester ont été influencées par ExxonMobil, l'une des plus puissantes et riches compagnies de combustibles fossiles au monde. L'entreprise a donné de l'argent à un think tank de droite et l'ex-premier ministre Rishi Sunak a reconnu qu'ExxonMobil avait aidé à rédiger les lois anti-manifestation qui permettent aux juges de réduire les gens au silence. C'est effrayant que ceci soit la réponse du gouvernement aux jeunes qui tentent de se protéger. protéger.
Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU, dénonce régulièrement la répression des défenseurs du climat en Grande-Bretagne. Peu après le jugement, les tournesols de Van Gogh ont de nouveau été pris pour cible par des militants de Just Stop Oil, dont 25 membres sont désormais derrière les barreaux.
Stéphanie Schuller dans votre journal international.
Et c'était Adrien Delgrange qui revient 21h pour d'autres informations. D'ici là, dans 20 minutes, Afrique Soir. Et tout de suite, Accent du Monde sur Radio France Internationale.